Merci Anne Fauquemberg et bonsoir à tous. Nous sommes ce soir à Nancy, dans les studios de France Bleu Sud-Lorraine. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Beaubert. Non mais Yvon, ça va pas du tout ça. Mais tu laisses traîner tes déchets nucléaires partout. Sous le lit. Dans la salle de bain. Non mais au fond du placard. Écoute, c'est pas très respectueux, hein. Ni de l'environnement, ni de la femme de chambre de l'hôtel. Attends, c'est quand même pas très compliqué. Tu trouves une zone déserte. Tu creuses, t'enfouilles tes déchets, et on n'en parle plus avant 1000 ans. Ouf. Ah non, mais tes chaussettes, t'as plutôt intérêt à les faire traiter à la hague avant enfouissement, là. Ah non, parce qu'elles sont encore sacrément radioactives.
Pff. 24 000 ans. Si les chaussettes d'Yvon étaient en plutonium, on peut estimer qu'il faudrait 24 000 ans pour qu'elles perdent ne serait-ce que la moitié de leur radioactivité, ce qui au fond n'est pas grand-chose par rapport aux miennes, qui sont en uranium et dont la période de nuisance est estimée à pas moins de 4 milliards d'années. Sympa les fabricants de chaussettes, sympa les instigateurs du plan Messmer dans les années 70, qui ont nucléarisé la France à tout va, n'ont eu de cesse de nous vanter une énergie peu coûteuse et propre, et ont un peu oublié de nous parler de ces déchets. C'est dans l'est de la France que l'Agence nationale chargée de la gestion de ces déchets radioactifs, l'ANDRA, étudie la possibilité d'une zone d'enfouissement la plus sécurisée et la plus pérenne possible. Nous sommes aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne, dans la commune de Bure, dans une zone qui compte 7 habitants au kilomètre carré, un peu perdue au milieu des champs de colza.
Nous projetons de stocker les déchets de haute activité et moyenne activité dans l'installation nommée CIGEO, Centre industriel de stockage géologique, à 500 mètres de profondeur, si ce stockage venait être autorisé, sous nos pieds, dans une couche de roche qui a 160 millions d'années et qui est faite essentiellement de roches argileuses.
De l'argile. C'est dans l'argile que vous voulez stocker les déchets nucléaires hautement radioactifs.
Tout à fait, parce que pendant les 10 premières années des recherches qu'on a menées ici, et aujourd'hui maintenant on continue aussi d'ailleurs, cette roche, on a montré ses propriétés de confinement, c'est-à-dire qu'elle est capable sur de très grandes périodes de temps, plusieurs centaines de milliers d'années, de ralentir, voire bloquer les éléments radioactifs. Et c'est à ce titre qu'elle nous intéresse.
8 minutes de descente, comme au temps des mines, je crois, pour accéder au laboratoire de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dont vous êtes chargé de communication, Éric Poirot. En fait, c'est là-dessous que ça se passe.
Alors, une fois que les transports qui sont sous responsabilité des producteurs de déchets, hein, donc EDF, Areva et CEA pour les plus gros, ces transports arrivent et ils nous livrent ce qu'on appelle des colis primaires qui sont fabriqués selon nos spécifications communes. Nous devons contrôler que ces colis respectent bien ces spécifications et ensuite on va les emballer dans une peau supplémentaire, soit sous forme de cube en béton, soit sous forme d'un revêtement en acier. Et on va protéger les travailleurs, bien sûr, pendant le transfert depuis la surface jusqu'au fond, avec une hotte de protection radiologique. Et c'est cet ensemble que l'on aura à manager, à la fois dans la descenderie, le tunnel incliné qui va mener au milieu de la couche d'argile, et au fond, pour mettre les colis en place dans les alvéoles.
Quelle quantité de déchets radioactifs vous aimeriez pouvoir stocker ici ?
Alors, c'est pas qu'on aimerait bien stocker une quantité, c'est que la loi, on travaille dans le cadre d'une loi, de trois lois successives en fait, nous demande de créer un stockage avant de l'autoriser, hein, 100 ans, de créer un stockage qui réponde aux besoins nécessaires pour stocker l'ensemble des réacteurs actuels, il y en a 58, plus ITER, plus Flamanville qui est en cours de construction. Ce qui occasionne une emprise au fond, dans la couche d'argile, entre 12 et 15 km carrés.
Et une fois que les galeries sont remplies de ces déchets, qu'est-ce qu'on fera? On rebouchera le trou?
Alors, j'aime pas trop ce terme de reboucher, mais bon, ça s'assimile à ça. On va le sceller, c'est-à-dire que le scellement des alvéoles, puis des quartiers, puis des zones, enfin, on a un ensemble de programmes de scellement, qui n'est pas encore arrêté, bien sûr, aujourd'hui, se fera concomitamment au creusement pour d'autres alvéoles ou à l'exploitation d'autres alvéoles. Il va être également mis en place des procédures afin que les opérations de creusement, c'est-à-dire de génie civil en gros, et de stockage soient physiquement totalement séparées au fond. L'idée quand même est d'avoir une instrumentation qui permette de suivre l'évolution, c'est ce qu'on appelle la phénoménologie, de cet outil une fois qu'il sera fermé, plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années après.
Alors encore faut-il qu'entre-temps, il n'y ait pas eu un séisme ou qu'il ait pris à personne l'envie ou l'idée de faire un forage par exemple. Il faut avoir sacrément confiance dans vos méthodes de calcul. Et dans vos modèles.
Alors, ce que vous évoquez, il y a deux choses. Il y a le risque sociétal. Je creuse un forage, un doublé de forage pour aller chercher de l'eau, par exemple. Donc ça, il est nécessaire, bien sûr, en surface, de garder la mémoire de ce qui est en dessous pour dire aux gens, au-dessus, les générations futures, attention, il y a quelque chose en dessous. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, ça va être dangereux. C'est dangereux comment? Combien de temps? Etc. Donc ça, c'est la problématique de la mémoire. Là, on est dans une science, mais plutôt une science sociétale. On n'est plus dans la technique, dans la science dure, comme on appelle. Hein. Donc là, il y a des équipes qui travaillent sur cela à l'ANDRA, sur la mémoire. On a même des sociologues qui s'en occupent. Ensuite, vous évoquez quelque chose qui a plutôt une origine physique, naturelle, les tremblements de terre. Alors bien sûr, les structures qu'on a au fond sont calculées en fonction du risque sismique qu'on peut avoir dans la région et autour. Bon, il s'avère qu'on est en bordure d'un bassin sédimentaire, le bassin parisien, et que cet endroit, par rapport à certains autres en France, est de faible sismicité. Si on le compare par exemple au fossé rhénan, où il y a un fossé actif, ou au sud des Alpes, où là on a des séismes qui peuvent être importants.
Donc pour vous, il était évident qu'il fallait vous implanter dans la Meuse?
Alors, la Meuse a été choisie justement pour ses caractéristiques géologiques uniquement.
Sur la route des déchets nucléaires, nous sommes dans les studios de France Bleu Sud-Lorraine à Nancy. Avec nos deux invités, bonsoir Stéphane Martin.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Gondrecourt-le-Château, 1200 habitants à 3 quarts d'heure de Nancy et à 8 km de Bure. C'est ce qui nous intéresse ce soir et vous êtes le président de la communauté de communes du Val d'Ornois. Vous êtes ici en studio avec Claude Kayser. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez maire jusqu'en 2008 de Ménil-la-Horgne, un peu plus loin de Bure, à 35 km, où vous êtes d'ailleurs resté adjoint au maire. Vous venez surtout en tant que secrétaire général du collectif des élus opposés à l'enfouissement des déchets nucléaires. Alors, l'un et l'autre, quand avez-vous entendu pour la première fois parler d'un projet de site d'enfouissement des déchets nucléaires sur la commune de Bure, dont vous êtes proche, Claude Kayser?
Moi, c'était en 1993, quand le département de la Meuse s'est porté candidat, avec plusieurs autres, pour l'implantation de ce laboratoire. À l'époque, ce n'était soi-disant qu'un laboratoire. Pour nous, c'était la première phase d'un processus qui devait nous mener inéluctablement à l'enfouissement. Donc au début, je n'ai pas été foncièrement opposé à ça. Je me disais un petit peu, comme tout le monde, les déchets nucléaires, il faut bien en faire quelque chose, il faut bien les mettre quelque part. Toutes ces maximes qui aujourd'hui, pour moi, n'ont plus de sens. Et c'est en 1995 qu'en tant qu'élu, je me suis engagé dans la constitution du collectif d'élus opposants à ce projet et que je suis entré en militance contre l'enfouissement, contre CIGEO, ce qu'on appelle aujourd'hui CIGEO. Donc ça fait plus de 20 ans.
Vous, Stéphane Martin?
En 93, quand les deux départements de la Meuse et de la Haute-Marne ont été consultés et se sont intéressés au projet, j'étais encore relativement jeune. Mais je m'intéressais déjà à la chose publique. Et puis, 2001, moment où j'ai été élu adjoint au maire. Donc là, vraiment, je me suis saisi du dossier depuis 2004 où je suis maire. Donc, où il y a réellement un dialogue avec l'ANDRA pour savoir ce qui s'y passe. Et donc aujourd'hui, je suis pleinement dans ce projet. Je le suis pleinement.
Quand vous dites que vous êtes saisi du dossier, est-ce que ça veut dire que vous avez par exemple pu prendre le temps de lire tous les rapports de l'ANDRA qu'elle a rendu public, donc je répète, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, qui chacun font 3500 pages, donc ce sont des rapports énormes qu'il n'est pas donné à tout le monde de prendre le temps de lire.
Honnêtement et sincèrement, non. Par contre, les élus du territoire sont tous membres du CLIS, Comité local d'information et de suivi, et nous avons une synthèse de l'ensemble des documents qui est faite, où les opposants sont également présents. Donc on a un débat contradictoire au sein du CLIS, et donc nous avons les deux versions, les deux propositions, contre-propositions, et au cours de ces échanges, naturellement, nous en apprenons beaucoup plus. Mais lire 3500 pages, c'est naturellement impossible pour les élus.
Claude Kayser, vous le disiez au départ, vous n'étiez pas contre, parce que vous vous disiez de ces déchets nucléaires, il faut bien en faire quelque chose. Il s'agit de stocker en grande partie des déchets qui ont déjà été produits. On peut presque se dire que la raison d'être de l'ANDRA n'est pas incompatible avec ceux qui veulent faire fermer les centrales.
On pourrait se le dire effectivement, mais moi ce qui me choque dans cette affaire, c'est justement que les déchets nucléaires, c'est quelque chose de sérieux. C'est une nuisance, qu'on arrête ou non le nucléaire, qui va empoisonner l'humanité pour très longtemps. Donc il faut s'en occuper, il faut s'en occuper sérieusement. Donc pour moi, il ne faut absolument pas les enfouir, ni commencer un processus qui nous mène à l'enfouissement. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, nous n'avons certes pas de solution, mais imaginons que demain la communauté humaine se saisisse à bras-le-corps de ce sujet et trouve une solution, l'enfouissement les en privera parce que c'est quelque chose qui ma foi, empêche notre communauté de travailler. Alors il y a un sophisme éhonté qui est utilisé par les partisans du projet que je trouve absolument odieux. Ils nous disent souvent, mais vous, les opposants, vous acceptez de léguer le problème aux générations futures. Et ça, c'est immoral. Je trouve que c'est honteux de nous accuser de cela, parce qu'au contraire, moi, je préfère léguer un problème aux générations futures et dont ils puissent se saisir à bras-le-corps, plutôt qu'un risque inconsidéré et incontrôlable.
Mais encore une fois, Claude Kayser, on parle de ces entrepôts de lag qui arrivent à saturation, on parle de 800 000 mètres cubes de déchets, dont 10 000 de haute activité, à qui il faut trouver une place. Bure, ce serait 3% du stockage des déchets en volume, mais qui concentrerait donc 99% de la radioactivité. On en fait quoi de ces déchets? Alors effectivement, les regards sont tournés vers la Meuse, mais où d'autres? C'est-à-dire, est-ce que vous savez si l'ANDRA avait prospecté ailleurs, par exemple, Stéphane Martin?
Alors, je voudrais tout d'abord répondre à Claude Kayser. Nous avons d'ores et déjà deux points de désaccord. Le premier, il le reconnaît lui-même, il ne propose pas d'autres solutions. Donc ne rien faire serait la pire des solutions, à mon sens. Certes, la solution proposée par l'ANDRA est peut-être imparfaite, mais ne rien faire serait encore pire. Le deuxième point, vous le rappeliez également, ces déchets existent, ils ont été produits. Et l'argument de dire il faut laisser les générations futures gérer, non. Ce sont mes parents, mes grands-parents qui ont généré ces déchets. Et je n'ai pas envie que mes enfants, mes petits-enfants me fasse le reproche de n'avoir rien fait. Aujourd'hui, il existe une solution, donc faisons en sorte que cette solution, aussi imparfaite soit-elle, je l'ai dit, soit la solution de référence.
Ceci dit, jusqu'à présent, Claude Kayser, il a fallu donc désengorger la Hague, il a fallu même créer un centre de stockage de plus faible activité dans l'Aube, donc pas très loin d'ici. Est-ce que ça avait aussi créé des débats lors de la construction de ce site à Soulaine, quand on a dit, on va créer un site pour les déchets de moyenne activité, et c'est pas très loin d'ici?
Oui, bien sûr, mais je m'inscris en faux par rapport à ce qu'a dit Stéphane Martin. Nous proposons quelque chose. Nous proposons. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il n'y a pas de solution. Le stockage souterrain n'est pas une solution, c'est un pis-aller, puisqu'il ne supprime pas la radioactivité et laisse l'humanité sous sa menace. Nous proposons de les maintenir en surface près des lieux de production, pour ne pas multiplier les risques liés au transport, qui sont les risques aujourd'hui les plus importants en matière de nucléaire, premièrement. Deuxièmement, pour que la communauté humaine de demain puisse, et d'aujourd'hui d'ailleurs, il ne s'agit pas d'attendre que les générations futures prennent ce problème à bras-le-corps, il faut que nous, notre génération, nos scientifiques, mettent leur énergie, mettent notre économie au service de l'éradication de ce sinistre poison, et non pas décider de cacher la poussière sous le tapis comme le ferait un sale gamin, parce qu'on ne parle pas d'un vase cassé, là on parle de produits capables d'empoisonner des régions entières. Donc il faut s'en occuper occuper sérieusement. Et s'en occuper sérieusement, c'est les regarder en face, c'est travailler, c'est faire travailler la science. Si on s'engage, si on met le doigt dans le processus qui nous conduit à l'enfouissement, personne n'ira les rechercher le jour où véritablement la science trouvera une solution. Alors c'est vrai, aujourd'hui il n'y en a pas, mais c'est un désespoir terrible de penser qu'il n'y en aura jamais. Et c'est ce désespoir qui irrigue les décisions qui sont prises par les pouvoirs publics et l'ANDRA aujourd'hui.
Claude Kayser parle du transport de ces déchets. Stéphane Martin, l'idée en fait pour Bure, c'est que, en tout cas, si le projet reçoit l'aval du gouvernement, ce qui n'est pas encore gagné, le site recevra ses premiers colis radioactifs via deux trains hebdomadaires qui passeront par un tunnel construit alors sur la commune de Mandran-Barrois, donc à côté de Bure. Comment est-ce qu'on s'assure, ne serait-ce que dans ce train, que tout est sécurisé? Je vous parlais tout à l'heure de ce site de stockage des déchets dans l'Aube, à Soulaine, le CRIRAD, laboratoire indépendant, fait régulièrement des tests et régulièrement nous dit qu'il y a des fuites.
On ne va pas parler de Soulaine, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Bure.
À Soulaine, c'est justement de moindre intensité.
De moindre intensité, mais je pense que le volume de déchets stockés à Soulaine est bien plus important que celui qui sera stocké à Bure.
En volume, mais pas en radioactivité.
En volume, mais pas en radioactivité. Les élus ont été associés au processus de décision. Et les élus du territoire ont tous demandé à ce que les déchets soient transportés majoritairement par le ferroviaire. Et donc, nous avons souhaité que les déchets arrivent par le train jusqu'à la descenderie, sans rupture de charge, dans la mesure du possible.
Ce qu'on appelle la descenderie, c'est l'endroit où on commencera à descendre dans le sous-sol ces déchets.
Tout à fait.
Voilà, les élus ont été consultés, dites-vous, en tout cas, pas tous. Alors, Jean-Pierre Remlet, on voit bien sur votre carte les contours de la ZIRA, cette zone d'intérêt pour la recherche approfondie qu'a dessinée l'ANDRA sur ce territoire et qui englobe donc la commune de Bonnet dont vous avez été maire.
Oui.
Est-ce que dès le départ, vous vous dites contre ce projet ?
Non, je peux vous dire honnêtement que j'étais pas opposé à l'implantation d'un laboratoire, mais j'ai très vite commencé à comprendre, dès 1995 ou 1996, quand le chargé de mission de l'ANDRA a commencé à rendre visite au maire régulièrement, à peu près tous les 15 jours, quoi. Il passait seul, et rapidement, il est passé avec un chargé de mission qui venait du Conseil Général. Et ces deux personnes passaient régulièrement, demandaient si on avait des projets d'investissement, se proposaient d'aider les maires à monter ou à apporter des subventions, ou à intervenir, ou faire intervenir pour financer les projets, patali, patala, enfin bref. Enfin, vous voyez, ils étaient là un peu comme des entremetteurs. Donc, sur mon premier projet d'investissement communal, qui concernait l'aire de détente de Saint-Florentin, le jour de l'inauguration, je vous passe le détail, j'ai simplement dit que j'étais plus enclin à croire au miracle de Saint-Florentin qu'au mirage de la nouvelle entreprise. Voilà.
Jean-Pierre Remlet, vous étiez agriculteur en plus d'être maire de Bonnet.
Oui.
Est-ce que vos terres intéressaient l'ANDRA ? Est-ce que ça entrait dans leur périmètre souhaité ?
Non, mes terres n'entrent pas dans le périmètre convoité par l'ANDRA. Mais le problème, c'est qu'au départ, en matière foncière, disons vers 2010, hein, ils n'ont commencé guère qu'à ce moment-là à courir après les terrains, l'ANDRA a établi des conventions avec les SAFER.
Donc la SAFER.
En demandant à la SAFER d'aller enquêter chez tous les agriculteurs de plus de 55 ans afin de savoir s'ils avaient des successeurs, le devenir de leur exploitation. Et patali et patala.
Les SAFER sont les sociétés d'aménagement foncier
et rural. Voilà. Le plus important dans ces transactions, c'est que l'ANDRA a fait monter le prix des terres. Hein, des terres agricoles qui valaient un peu plus de 3000 euros il y a 5-6 ans, en valent près de 6000 aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est le business, quoi. Et puis aujourd'hui, avec les difficultés du monde agricole, je pense que l'ANDRA, il y avait des sucettes au bout. Sinon, c'est vrai que si l'ANDRA était arrivé à l'époque, je pense, de nos grands-parents, il serait fait sortir à coups de fourche, quoi. Certaines personnes que je pouvais rencontrer étaient favorables parce que ils avaient un membre de la famille qui avait embauché à l'ANDRA, quoi. Donc, c'est bien, ça donne du travail, quoi. Mais comme dit l'autre, du travail de base. Hein. On est gardien, on est tondeur de pelouse, ou alors on est manutentionnaire en bas.
C'est déjà pas mal dans un bassin d'emploi, justement, sinistré.
Bah, c'est une façon, vous voyez, de se faire accepter par une partie de la population, quoi. Hein.
Alors vous, vous êtes connu, Jean-Pierre Remlet, comme le maire qui a dit non. Ça s'est passé, en fait, lors d'une séance du conseil municipal, le 20 janvier 2010, ici à Bonnet.
Alors, en deux mots, la ZIRA, la zone, nous a été présentée par l'ANDRA début novembre 2009. Je l'ai soumise à mon conseil municipal le 18 novembre 2009, dans les questions diverses. Et là, j'ai eu un avis unanime de mon conseil municipal contre l'enfouissement. Bon, j'en suis resté là parce que je pouvais pas prendre de délibération dans les questions diverses. Et suite à ça, ben, j'ai été contacté par le capitaine des RG me disant que monsieur le préfet souhaitait rencontrer les quatre maires de la ZIRA pour une visite informelle. Donc monsieur le préfet est venu le 3 janvier 2010 à 17h pour rencontrer les quatre maires de la ZIRA à la mairie de Bonnet. Le maire de Mandre lui a dit ouvertement, ben moi, monsieur le préfet, je souhaiterais faire une consultation populaire. Hein, on est dans le dernier carré, donc je pense que les habitants, les locaux, devraient quand même avoir leur mot à dire. Bon, à ce moment-là, il s'est fait remettre en place, bien gentiment, par le secrétaire général de la préfecture, qui lui a répété les textes du Code des collectivités territoriales. Le maire de Bure a simplement déclaré « Pour moi, monsieur le préfet, c'est bon, ça va passer ». Le maire de Ribeaucourt, qui avait la même idée que le maire de Mandre, il pouvait pas en dire plus. Et le maire de Bonnet a simplement dit à monsieur le préfet « Ben moi, monsieur le préfet, je laisse passer la trêve des confiseurs. J'ai simplement fait comprendre au préfet que j'avais pas le feu aux fesses, comme lui. Hein, parce que pour moi, il avait le feu au cul, en parlant français. Hein. Et je laisse passer la trêve des confiseurs. Et puis je réunis mon conseil municipal et on transforma l'avis du conseil municipal en délibération. Point barre, quoi. »
Donc vous dites au préfet « Je vais réunir mon conseil municipal pour délibération. » Sauf qu'au moment du vote, surprise.
Ben, la surprise, elle est arrivée la veille de la convocation. Article dans l'Est républicain, voilà, 5 conseillers se désolidarisaient du maire. Et dans cet article de l'Est républicain, ben, il était écrit que 5 conseillers avaient été reçus un soir par l'ANDRA. Voilà, dans mon dos. Et comme certaines personnes se mettent facilement au garde à vous, aussi bien devant l'ANDRA que devant le monsieur le préfet, et bien, ma foi, ils avaient trouvé les bonnes poires.
Jean-Pierre Remlet, vous n'avez pas été réélu en 2014. Est-ce que c'est parce que, à votre avis, les habitants de Bonnet, finalement, ne partageaient pas vos convictions anti-ANDRA?
Bon, peut-être que certaines personnes... parce que j'ai eu l'habitude, à partir de 2010, de mettre en place des soirées d'information sur le nucléaire. Donc, je ne sais pas si c'est ça, parce qu'on voulait informer la population. Mais à chaque soirée, on avait grosso modo entre 60 et 90 personnes dans la salle. Mais les personnes qui étaient dans la salle étaient des opposants convaincus à 90%. Quoi. Voilà.
Jean-Pierre Remlet, comment s'est aiguisé votre sens à vous de cette lutte? C'est-à-dire qu'entre guillemets, vous n'avez pas le profil, vous n'êtes pas un hippie post-68ard, vous n'êtes pas un écolo bobo en rasta, vous étiez donc agriculteur syndiqué à la oui. FNSEA, maire d'une toute petite commune. Qu'est-ce qui vous a animé? Contre quoi est-ce que vous êtes battu en fait?
Bah, je me suis battu contre un projet qui arrivait comme ça insensiblement. C'est un projet qui a toujours avancé un petit peu en catamini, sans consultation directe. Je vous citerai une anecdote. C'est mon député qui répondait à une de mes administrés, parce que cet administré l'avait un petit peu titillé sur la démocratie autour de Bure. Alors le député lui a répondu « Mais nous sommes en démocratie parlementaire. Nous avons été élus par le peuple. Donc c'est à nous de décider. » Et ce député est quand même... aujourd'hui président d'une association, ce fameux bidule, là, comme il y a plein de bidules chez les politiques, qui s'appelle Décider Ensemble. Mais c'est Décider Ensemble avec qui? Avec ses collègues députés ou avec les gens qui l'ont élu?
Jean-Pierre Remlet, vous êtes aujourd'hui, donc, vous n'avez plus de fonction élective, vous êtes à la retraite de votre métier d'agriculteur. Est-ce que votre successeur à la mairie de Bonnet partage vos convictions? Est-ce qu'il défendra la commune contre un projet qu'il jugerait néfaste?
Ah là, je ne peux pas vous répondre. Il faisait partie des cinq. Bon, en date d'aujourd'hui, la délibération n'a pas été annulée par le nouveau conseil municipal. Bon, face au projet de l'Andra, apparemment, ça pèse pas grand-chose. Hein, parce qu'un journaliste de l'Est républicain qui s'est adressé en préfecture peut-être un mois et demi après la prise de délibération, a posé la question au secrétaire général. Et le secrétaire général lui a répondu « Bon, la délibération de Bonnet, il faut la considérer comme un vœu. » Voilà. Voilà comment on considère les avis de conseils municipaux concernés directement, comme d'un vœu.
Claude Kayser, qui est secrétaire général du collectif des élus opposés à l'enfouissement, comment se fait-il que Jean-Pierre Romelet soit, à ma connaissance, le seul maire à avoir demandé à son conseil de se prononcer sur la question de l'enfouissement des déchets nucléaires ?
Attention, c'est le seul maire de la zone concernée, la fameuse ZIRA. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres élus, et notamment l'ancien président de la communauté de communes, qui était et est toujours un opposant farouche au projet. Il y a aussi de nombreux petits conseillers municipaux que nous connaissons, qui sont dans notre association et qui gravitent autour de Bure et qui sont opposés. En général, ce sont plutôt les grands élus, entre guillemets, qui sont pour, les députés, les sénateurs, les conseillers généraux. Et puis, bien sûr, les petits maires de communes qui subissent toute cette pression, cette chape de plomb qui pèse sur eux. Certains n'ont pas de position, d'autres, comme Stéphane Martin, se prononcent courageusement pour, et d'autres encore, ma foi, n'osent pas dire leur opposition. Mais je pense profondément qu'il y a cela. Mais la majorité de la population, en tout cas, j'en suis certain aujourd'hui, n'est pas d'accord avec ce projet.
Mais on l'entend pas beaucoup, justement, non. La population. On a l'impression d'une certaine résignation.
Absolument.
Stéphane Martin, est-ce qu'on vient vous voir? Est-ce que les habitants... Est-ce que vous avez organisé une consultation populaire, d'ailleurs?
Alors, je voudrais tout d'abord réagir. Il n'y a pas de petits élus et de grands élus. Et le vote de l'un ou de l'autre est identique. Après, la population s'interroge sur le projet. La population s'interroge, effectivement, et les associations d'opposants informent à leur manière aussi la population, au même titre que l'Andra le fait. À titre personnel, j'ai toujours dit que j'étais favorable au projet. Mais je n'engagerai pas directement la population, je n'engagerai pas directement la commune dans ce projet. Ce qui a été reproché à Jean-Pierre Remnay, qu'on a entendu juste avant, c'est d'avoir fait de sa commune la commune résistante à l'Andra.
Jean-Pierre Remnay pose la question des subventions et des fonds d'accompagnement, qu'il, lui, désigne comme des moyens de pression de l'Andra. Vous, Stéphane Martin, vous recevez combien par an de l'Agence nationale de traitement des déchets radioactifs ?
Moi, personnellement, je ne reçois rien.
Votre conseil municipal, votre commune.
La commune reçoit une dotation de 485 euros par habitant. C'était fixé dans la loi de 2006. Toutes les communes dans un rayon de 10 km reçoivent une dotation. Donc ça n'est pas l'Andra qui décide du montant, ça n'est pas l'Andra qui fait varier cette dotation en fonction des affinités avec telle ou telle commune. C'est le législateur, le parlementaire, qui a décidé de fixer cette dotation aux communes des 10 km.
Est-ce que c'est vous qui devez en faire quand même la demande? Il y a une démarche à faire ou vous, de toute façon, vous la recevez?
De toute façon, elle arrive, cette dotation. On ne sollicite pas l'Andra pour recevoir cet argent.
Et réellement, qu'est-ce que ça apporte à Gondrecourt-le-Château, votre commune?
Ça a déjà permis de ne pas augmenter la fiscalité malgré les baisses de dotation de l'État, d'une part. D'autre part, ça a permis de faire un certain nombre de projets que nous n'aurions pas pu faire, pas pu mettre en œuvre si nous n'avions pas cette dotation.
Au total, ça fait combien? Au total, l'ensemble par an?
600 000 euros pour Gondrecourt. Pour les communes meusiennes, ça représente 1,8 million. Je voudrais simplement faire un bref rappel historique de l'activité économique sur Gondrecourt. Petite commune du sud meusien, 1200 habitants, qui s'est développée durant les années 70, 80, 90 avec une industrie de l'ameublement. Lorsque j'ai été élu la première année, cette entreprise qui employait 400 personnes a fermé. 150 000 euros de taxes professionnelles en moins sur la commune. Naturellement, quand je perçois une dotation de 600 000 euros tous les ans, ça compense. Et ça me permet de développer la commune.
Mais est-ce que finalement, cet argument de l'emploi, là, il revient à chaque fois, en fait, dès qu'il y a ces grands projets, alors que ce soit pour Notre-Dame-des-Landes, que ce soit pour le parc éolien offshore au large de l'île du Noirmoutier, où on avait pu aller avec Yvon, toujours cette question de l'emploi qui revient sur la table, est-ce que c'est suffisant ?
Naturellement. Chaque élu cherche à développer sa commune, chaque élu cherche à développer son territoire. Et le développement se fait par de l'activité économique, quelle qu'elle soit l'activité économique.
Claude Kayser, est-ce que vous, à Ménil-la-Horgne, vous recevez un peu d'argent ? Vous êtes plus loin, vous êtes à 35 km de Bure. Mm-hmm. De cet argent censé donc compenser les nuisances d'un projet qui n'a pas encore abouti, ce qui est la particularité de Bure. Mm-hmm. En général, les subventions, elles arrivent quand il y a des nuisances. Là, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas un gramme de déchets radioactifs à Bure.
Absolument. Oui, bien sûr. Quand j'étais maire, non, je n'ai jamais demandé de subvention. Mais aujourd'hui, le conseil municipal demande des subventions, par exemple, pour refaire le toit de la salle des fêtes ou, je ne sais pas, pour refaire des fenêtres, n'importe quoi. Tout cet argent irrigue tout, que ce soit les collectivités, mais pas seulement, les entreprises, les particuliers, les associations, enfin tout. Stéphane Martin disait, il y a eu des, c'est légal, en gros. Il disait que c'est une loi qui avait décidé de ça. S'il y a une chose qu'on a comprise en 20 ans de lutte à Bure, c'est que le jour où l'égalité rimera avec moralité, eh bien les poules auront des dents. Parce que moi, en tant que petit élu de base, vous disiez, Stéphane Martin, qu'on avait les mêmes droits que les grands élus. À aucun moment, je n'ai été consulté et mon avis n'a été pris en compte. À aucun moment, quand mon département s'est porté candidat à ce projet. Moi, je me suis senti souillé, c'est le mot. Je me suis senti fait dans la position un peu comme ces indigènes qu'on achèterait avec de la verroterie. Parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quand même, il faut le signaler, c'est la première fois, il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire de nos institutions où on distribue de l'argent avant même qu'un projet soit décidé. Enfin quoi, Stéphane Martin ? L'année prochaine, en 2018, il va falloir, il y aura une enquête publique, il faudra que les collectivités donnent leur avis pour l'implantation définitive du centre de stockage, après avoir touché cet accompagnement financier, hein, je dis ça, je le mets entre guillemets, pendant tant d'années. Vous pensez pas qu'il y a quelque chose d'immoral là-dedans, mais on n'a jamais vu ça. Non, je dis que moi, je m'estime méprisé par les pouvoirs publics, et je ne suis pas le seul. Maintenant, oui, c'est vrai que la Meuse est un département qui se désertifie, qui a des problèmes, mais a-t-on à ce point si peu d'imagination que d'être prêt à accepter n'importe quoi pour le développement de nos territoires ? C'est une folie.
Claude Kayser, certains, en parlant de ce dossier, parlent, alors je ne sais pas, c'est un barbarisme de verdunisation, un peu comme si, finalement, la mémoire de ce territoire souillé pendant différentes guerres était présente à ce point qu'on avait de toute façon pris conscience que ce territoire-là, eh ben, on pouvait plus le sauver en fait, on pouvait plus se battre pour lui. Stéphane Martin ?
Je pense qu'on peut pas comparer. Ce qui s'est passé à Verdun en 1916, ni l'Allemagne ni la France à l'époque n'ont choisi, n'ont voulu ces 300 000 morts sur les champs de bataille. Ça a été subi. Bure, ça a été choisi. Les conseils généraux de l'époque se sont prononcés favorablement à l'accueil. Il faut rappeler, à l'unanimité des conseillers généraux.
Mais vous entendez quand même Claude Kayser qui dit qu'il sent qu'il a été souillé, qu'il n'a pas été entendu. Là, vous n'êtes pas sur un débat politique. Vous parlez, vous êtes sur une même échelle. Vous êtes tous les deux maires de petites communes. Vous pouvez entendre cette rage d'élus qui disent ne pas avoir été écoutés.
J'entends l'argumentation de M. Kayser. Libre à lui de voter pour un parlementaire qui ne sera pas favorable au projet. Les parlementaires meusiens et haut-marnais était dans l'hémicycle pour voter lorsqu'il y a eu la dernière loi. On se rend compte également, lors des élections locales, élections départementales, élections régionales, du faible score des candidats opposés au projet. Et pourtant, ce sont les électeurs qui votent.
Mais alors pourquoi on n'organiserait pas un référendum comme ça s'est fait pour Notre-Dame-des-Landes ? Est-ce que, là encore, vous avez peur de la résignation des électeurs, Claude Kayser ?
Nullement. On a d'ailleurs réclamé pendant des années un référendum. Il y a eu plus de 60 000 Haut-Marnais et Meusiens qui ont signé une pétition pour demander juste à être consultés. C'était pas demander être pour ou contre, juste demander à être consulté. Ça a été balayé d'un revers de plume en arguant que ce projet était d'envergure nationale et que donc c'était pas toujours les arguments légaux, la légalité stricto sensu qu'on oppose à la simple moralité, au droit et au bon sens des gens et à leurs droits les plus élémentaires de s'exprimer. C'est lassant à la fin. C'est comme pour les débats publics. On pourra y revenir si vous voulez, mais enfin.
Alors, on peut parler du débat public de 2013. Oui. On peut en parler justement.
Parlons-en.
Parlons du débat public 2013, où vous avez empêché la tenue des réunions.
Absolument.
Qu'il s'agisse à Bure, à Bar-le-Duc, vous n'allez pas laisser rentrer les gens dans la salle. Vous n'avez pas laissé les populations s'exprimer. Alors, ne dites pas qu'il n'y a pas eu de débat public, alors que vous l'avez empêché.
Pour quelle raison, Claude Kayser ?
Et je suis fier qu'on l'ait empêché. Parce que pour moi, un débat public, c'est quand on discute avant et qu'on décide après. Et là, c'était exactement l'inverse. On nous demandait de nous prononcer sur la couleur des papiers peints. Moi, j'appelle pas ça un débat public, j'appelle ça une mascarade. Et c'était une nouvelle étape dans le mépris des populations, leur faire semblant de leur demander de s'exprimer. Moi, je me suis senti une fois de plus humilié. Et oui, nous avons chahuté le débat public pour protester contre cette façon de faire qui est absolument antidémocratique.
Vous n'avez pas chahuté, vous l'avez bloqué, vous l'avez empêché.
Absolument.
Et la loi n'a été votée qu'après. Donc ne dites pas que ça a été décidé, qu'il fallait simplement choisir le papier peint. Vous avez empêché le débat public.
C'est faux.
Alors, Claude Kayser, vous êtes dans cette lutte aidée, soutenue par des militants qui sont installés à Bure même. Certains pour quelques jours, quelques semaines, d'autres comptent rester un peu plus longtemps. Ils se sont installés dans un bâtiment rustique qu'ils ont baptisé Maison de Résistance. Certains sont même originaires de la région.
Moi, j'ai grandi avec l'Andra, en fait. C'est en discutant avec d'autres personnes qui ont aussi grandi dans l'Aube qu'on s'est aperçu qu'on avait un point commun, c'est qu'on avait tous visité l'Andra enfant. Et que, en fait, tous les enfants de l'Aube sont amenés, soit par l'école, soit par les centres aérés, à visiter l'Andra. Moi, on m'a montré une base, ça ressemble à une base spatiale, quoi. Il y a des centaines de kilomètres de tunnels sous terre. Pour un enfant, c'est hyper impressionnant. On en garde un souvenir de... J'ai visité une base spatiale, quoi. Et évidemment, c'est très marquant, et pour un enfant, c'est impressionnant. Mais derrière, qu'est-ce que j'en ai retenu sur les déchets nucléaires ? Rien. J'ai juste retenu un endroit très impressionnant et qui est extraordinaire, quoi.
Alors, John ? Jeune adulte, vous êtes venu vous installer à Paris, faire vos études, commencer à travailler dans l'éducation nationale. Il y a 2 ans, à peu près, vous avez décidé de refaire ce chemin inverse, de retourner chez vous. C'était un choix guidé vraiment par ce qui se passait à Bure ?
Oui et non. Oui, parce que ça m'a interpellé beaucoup en venant à Bure. Cette réalité-là et parce que par choix politique. Mais après, il y a aussi une autre dimension, c'est quand j'ai vu les Parisiens dire « L'Est, c'est moche, c'est des champs à perte de vue, c'est horrible, je vivrai jamais là-bas. » Alors évidemment, les alentours du labo sont particulièrement désertifiés, c'est un gros plateau, bien agricole, donc ça correspond à la vision que les gens en ont. Avec des éoliennes à 360 degrés, c'est vraiment saisissant comme décor. Et ça s'appuie beaucoup là-dessus, c'est ça le problème, c'est que même l'Andra joue un peu là-dessus. De dire on va redynamiser le territoire dans un territoire sinistré où les gens n'ont pas envie d'habiter. Nous on va amener quelque chose en fait. Et puis par ailleurs on va mettre la poubelle nucléaire dans un coin où il n'y a rien en fait. Et c'est encore plus méprisant de dire qu'il n'y a rien en fait. C'est pas parce qu'il y a 6 habitants au kilomètre carré qu'il n'y a rien en fait. Et c'est vraiment là-dessus que ça s'appuie. C'est de dire, on a quand même choisi un endroit où les conséquences en termes de population sont très limitées parce qu'il n'y a personne. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, c'était pas la dimension avec laquelle j'étais arrivé. Mais aujourd'hui, elle me tient vraiment à cœur. Après avoir habité quelques mois là-bas, je le prends pour moi, en fait. Je trouve ça triste, en fait, qu'un territoire puisse être aussi méprisé.
Vous, John, vous avez quitté un poste de l'éducation nationale pour vous investir dans cette lutte ?
Oui. Je suis en disponibilité de l'éducation nationale, oui. Je suis là pour le moment, je suis volontaire à 100%. Ce qui veut dire que j'y consacre tout mon temps sans rémunération. Je suis appuyé par la solidarité, nourri et logé par la solidarité en grande partie. Et c'est bien qu'elle soit forte parce que ça nous aide beaucoup. C'est même plus une dimension de travail là, c'est une dimension de vie en fait. Enfin, je pense qu'on scie, on fait des affouages comme tous les gens du coin, où on fait notre bois, on restaure la maison constamment, on fait des chantiers tout autour, on va aider les paysans un peu plus loin. Là, on a semé, donc on a semé 500 mètres carrés de céréales, et c'est pas rien en fait. Le pain, il va être fait avec les gens du coin et acheté par les gens du coin. Et il y a vraiment cette logique-là qu'on veut aussi de vivre avec les gens. Et donc à partir de là, quand, comme cet été, on a suscité le collectif Sauvons la forêt en réaction à des travaux préliminaires de l'Andra sur le bois Le Jus, et qu'ils ont commencé les travaux pour un projet qui n'est pas déposé, qui n'est pas créé, qui n'a pas de déclaration d'utilité publique, ce qui est très choquant en fait, de commencer à raser une forêt et de faire un mur de 3 km dedans pour l'encloisonner entièrement au mépris de ce qu'est la vie d'une forêt, parce qu'on peut pas encloisonner du gibier, c'est pas possible en fait. C'est ça aussi, c'est un mépris profond pour ce qu'est la vie à la campagne aussi. C'est une mécompréhension profonde en fait. Et c'est ça, les habitants sont plus choqués par ça que par le projet de poubelle nucléaire en fait. Ils sont plus choqués qu'on puisse faire un mur de 3 mètres et empêcher les gibiers de bouger, qu'on puisse laisser des champs en friche pendant un an et laisser proliférer le chardon dedans alors qu'eux ils ont pas le droit. Ça c'est plus choquant pour eux en fait que le projet en lui-même auquel ils... Ça leur paraît inaccessible tellement ces géants, ça les écrase. Et donc, nous, quand on a appelé à occuper la forêt, là, on a pu susciter vraiment une mobilisation importante. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont venues cet été, concrètement, à notre appel.
Ces 500 mètres carrés, c'est ça, de terre que vous avez semée, ce sont les vôtres ?
Ah non, c'est celle de l'Andra. C'est évidemment celle de l'Andra, c'est celle qu'ils ont repris aux paysans par... Par ce qu'on appelle un peu une sorte d'extorsion, parce que c'est fait de façon très insistante. C'est du harcèlement, en fait. C'est du harcèlement. C'est dire, tu vends, ou sinon, plus tard, tu vas voir. T'en auras rien, en fait. Tu seras exproprié, et puis, purement et simplement. Donc, on se donne la force de redonner du courage aux agriculteurs. Donc, on sème dans les champs que l'Andra a retiré à ces paysans-là. Et avec eux. Avec quelques agriculteurs du coin. Et pour eux, symboliquement, c'était très fort. Pour eux, ça a été beaucoup plus déterminant de faire ça avec nous que tout ce qu'on pouvait leur dire sur le projet Cigéo, en fait. Donc, moi, j'ai aussi envie que, d'un côté, je m'engage contre ce projet, mais de l'autre côté, j'ai aussi envie qu'on réfléchisse à ce qu'on peut construire d'autre. Une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon de militer sur place, en fait. Et ça, c'est un projet à part entière, c'est un projet de vie, en fait. Et je pense que pour ça, je suis capable de rester longtemps.
Ce sont donc 3000 hectares qui ont été achetés par l'Andra en Haute-Marne et dans la Meuse. Stéphane Martin, Jean-Pierre Remlet nous parlait tout à l'heure de 6000 euros l'hectare. Le Canard Enchaîné affirme qu'il en est allé jusqu'à 10 000 euros l'hectare, soit 2 à 3 fois le prix du marché. On sait que l'Andra n'aura pas besoin de toutes ces terres-là pour son projet, mais qu'elle les garde dans le but de sécuriser ses actifs. Parce que les terrains et les bois de ces territoires-là sont à ce point... rentable, c'est ça ? Ils rapportent beaucoup ces bois-là pour que l'Andra puisse s'en servir comme d'une monnaie d'échange ?
Ça ne sera pas une monnaie d'échange. Je pense que ça sera avant tout un échange avec les exploitants agricoles du secteur en fonction des besoins en termes fonciers de la part de l'Andra pour pouvoir donc échanger et sans passer par une procédure d'expropriation des agriculteurs qui sans doute seraient perdants. Donc l'Andra achète des terres qui aujourd'hui sont disponibles à la vente. Enfin, l'Andra ne les achète pas directement. Elle les fait acheter à la SAFER, organisme d'État. Et donc, il y aura ensuite échange avec les exploitants agricoles.
Ce bois Les Jus, dont il serait trop long de raconter l'histoire, parce qu'il y a une vraie histoire autour de ce bois Les Jus qui a été occupé cet été. L'Andra y a bâti un mur, c'était illégal a priori, en tout cas il a dû. Ce mur a été détruit par les militants, enfin il y a toute une procédure juridique autour de ce bois. Mais on ne sait pas encore aujourd'hui, c'est la grande question, s'il dispose de nappes phréatiques. C'est pas obligatoire, Claude Kayser, de s'en enquérir avant de lancer le moindre projet sur un territoire, de savoir s'il y a de l'eau au fond.
Ben, parlons-en, d'accord. Toutes ces pratiques-là qui viennent d'être évoquées font partie des méthodes de l'Andra. Pour moi, ce sont des méthodes ignobles, que ce soit pour l'accaparement des terres ou pour l'avancée du projet. Et on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas avoir confiance en l'Andra. Et l'histoire de la source géothermique est à mon sens, très éclairante. Pendant des années, l'Andra a nié toute existence de source à la verticale du futur site d'enfouissement, alors que c'est quand même très important. Il y a une directive européenne, une règle fondamentale de sûreté qui interdit interdit de stocker des déchets toxiques à la verticale d'une source potentielle d'énergie pour l'humanité. Nous, nous avions des preuves comme quoi il y avait une source géothermique. Donc on a fini par obtenir une expertise. Cette expertise a été confiée, je vous le donne en mille acquis, à l'ANDRA. Et l'ANDRA, c'est absolument ahurissant la façon... Laissez-moi une petite minute pour expliquer ça, après j'arrête. L'ANDRA a fait descendre une pompe dans le fond pour mesurer le débit de cette source et ils ont mesuré 5 mètres cubes. Ils nous ont dit, vous voyez bien, il y a bien une source, oui, c'est vrai, mais elle est ridicule. Dans la région parisienne, c'est 200, c'est 400 mètres cubes, donc elle sert à rien. Et on s'est rendu compte, mais on croit rêver, que l'ANDRA avait descendu une pompe avec un débit maximum de 5 mètres cubes. Donc on a fait faire une contre-expertise par un cabinet suisse, c'est le comité local d'information et de suivi qui l'a fait faire, et le cabinet suisse a trouvé jusqu'à 400 mètres cubes. Donc l'ANDRA a carrément menti et triché d'un facteur 80 sur l'existence de cette source. Et c'est à cet ANDRA même, Stéphane Martin, que vous faites confiance. Comment, mais ces gens-là, quand ils trichent, quand ils désinforment, devraient être destitués de ce projet immédiatement. Je ne comprends même pas. C'est un exemple parmi d'autres, j'en ai d'autres. Mais celui-ci est particulièrement saisissant par son ignominie.
Stéphane Martin, la question des nappes phréatiques, elle est évidemment primordiale. On parle là de déchets qui sont censés continuer à être radioactifs pendant des milliers d'années. Et vous êtes ici, en Lorraine, pas très loin finalement de l'Alsace, avec l'exemple Stocamine, en deux mots, ancienne mine de potasse reconvertie pour stocker les déchets industriels, qui est devenue en fait une bombe à retardement. Et à l'époque aussi, l'agence qui s'en était occupée avançait des arguments économiques. Or, l'incendie de septembre 2002 a éventré plusieurs colis de déchets, a montré que tout ça n'était finalement que très fragile. Mais à l'époque, c'est pareil, les élus avaient fini par dire oui sur des arguments économiques, d'emploi, de création d'emploi.
Je voudrais quand même rappeler... Sur Bure, l'ANDRA mène des recherches depuis 1999. On va être à 20 années de recherche. Mais si l'ANDRA travaillait seul, je pourrais comprendre qu'on remette en cause l'impartialité de l'ANDRA. Aujourd'hui, le laboratoire de Bure est un laboratoire de référence mondiale. Les échanges entre scientifiques internationaux se font, sont extrêmement nombreux, et donc aujourd'hui, ça reste la solution de référence.
Mais vous avez confiance en l'ANDRA, mais vous en connaissez beaucoup, des entreprises qui existent pendant 300, 400, 500 ans, 1000 ans ?
Aucune. Et c'est abordé tout à l'heure dans l'un des reportages, en matière de transmission de l'information, de la connaissance, du savoir. On parle des déchets qui ont une durée de vie de 100 000 ans. À l'échelle de l'homme, c'est énorme. À l'échelle de la Terre, c'est très peu. La couche d'argile qui va abriter ces déchets a 160 millions d'années. Faites le rapport entre 100 000 ans et 160 millions.
Pour conclure cette émission, Claude Kayser, le fait que ce projet soit finalement réversible, ça aussi, ça a été voté à l'Assemblée, donc pendant un siècle, en fait, il pourra être décidé d'aller récupérer ces déchets et d'en faire autre chose. Est-ce que pour vous, c'était une évidence ? Est-ce que ça vous a au moins un petit peu rassuré ?
Non, pas du tout, parce que je trouve que c'est un leurre. Réversibilité, déjà, c'est temporaire, là, puisque c'est 100 ans, premier argument. Deuxièmement, la réversibilité, elle est de fait en surface telle qu'on le propose, ou à proximité des sites de production. Et troisièmement, même techniquement, je n'y crois pas, mais en admettant que l'ANDRA ne mente pas, en admettant qu'ils aient raison et que ce soit effectivement techniquement réversible, il ne faut pas nous raconter d'histoire. Une fois que le processus sera enclenché, une fois qu'on commencera à descendre les premiers colis de déchets,
juste rappeler
qui ira chercher autre chose, qui ira chercher une autre solution, une fois qu'on sera engagé dans cette voie, le glas sera sonné pour toute autre solution réelle.
Vous avez 6 secondes.
Je voudrais juste rappeler à M. Kayser que la radioactivité n'a que 200 ans. Et donc, 100 ans de recherche supplémentaire seront nécessaires, indispensables, utiles, d'où la nécessité de récupérer les colis pendant minimum un siècle.
Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une sacrée responsabilité que nous reportons sur les générations futures et notamment les futurs habitants de Gondrecourt-le-Château et de Ménil-la-Horne dont vous êtes tous les deux maires. Merci beaucoup à vous en tout cas d'avoir participé à cette émission. Nous mettons sur notre site quelques liens qui pourraient être utiles à la compréhension de ce dossier par ailleurs très technique à la page de Sur la route sur le site de France Culture. Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos rencontres radiophoniques via notre compte Twitter et Instagram pour les photos. C'est à mon nom, Julie Gacon. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Sud Lorraine pour son accueil. À la technique, c'était Benjamin Capelli-Renong.
La semaine prochaine, nous serons sur la route des pompiers volontaires réunis cette semaine en congrès à Tours. Alors nous, c'est dans les Landes que nous irons voir les soldats du feu, mais pas que. Les Landes, qui est un des rares départements à avoir maintenu ses effectifs, même dans les zones les plus rurales, en l'occurrence dans l'arrière-pays forestier. Il est 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Freissé pour Tout un monde.